18h, 19h. C'est vous qui le dites, présenté par la rédaction de Radio U.
Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes le mercredi 24 février et vous écoutez C'est vous qui le dites, la quotidienne d'info locale et citoyenne de Radio U sur le 101.1 FM. Ce soir, on va parler démarches en faveur de l'environnement avec le désir de l'association Vosges Solidaires de créer un espace à Brest qui soit dédié à ces questions-là. Mais avant ça, on parle culture et surtout exposition. Une exposition photo qui ouvre demain à 13h et qui durera jusqu'en janvier 2022 et dont j'espère que vous pourrez profiter au plus vite au domaine de Trévarez. Cette exposition de photographie notamment, elle consiste en 17 portraits de personnes du centre Ker Arthur de Châteauneuf-du-Fou, des personnes atteintes d'un traumatisme crânien, d'une paralysie ou d'une lésion cérébrale. Et pour en parler, on accueille le photographe Éric Legret, bonjour.
Bonjour.
Et le directeur du domaine, Yann Le Boulanger,
bonjour. Bonjour.
Tout d'abord, je me demandais comment est venue cette idée de projet.
Alors, qui commence? Franchement, honnêtement, ce n'est pas venu de Trévarez. C'est venu de la comédienne Séverine Valomet, que Éric et moi connaissons depuis quelques années, et qui a eu cette envie de travailler avec des adultes en situation de handicap assez lourd, et avec le centre Ker Arthur, qui est à Châteauneuf-du-Fou, plein centre Finistère. Donc une quarantaine d'adultes handicapés dans ce foyer d'accueil spécialisé, et le lieu en lui-même a aussi dans son projet de vie, dans son projet culturel, cette envie d'ouverture vers la culture, vers le monde de la culture, et l'accès tout simplement à la culture pour ses résidents. Donc il y a un premier travail qui a eu lieu au sein du centre avec Séverine Valomet pour présenter son travail, son spectacle, un de ses spectacles, puisqu'on était un petit peu embêté par les multiples confinements. Et assez rapidement, et puis je laisserai Eric compléter, Eric est arrivé pour l'aspect photographique. Et bon, il y avait cette envie de faire quelque chose, de montrer au public ce processus, ou une partie de ce processus. Et là, Trévarez, le domaine de Trévarez est arrivé pour une exposition photographique en extérieur qui sera visible, et c'est pratiquement une exclusivité, à partir de demain, puisque nous allons pouvoir ouvrir notre parc à partir de demain, de 13h à 18h.
Éric, est-ce que vous avez un mot à rajouter là-dessus?
Alors déjà, on est évidemment très heureux que le parc puisse ouvrir, puisque c'est assez frustrant quand une expo est déjà en place, a été montée il y a quelques jours, de ne pas pouvoir la montrer, la partager, surtout avec du public, ce qui est un peu la base aussi comment tout travail de photographique et de l'exposition. Donc effectivement, Séverine Valomet a fait un travail en amont dans le centre Ker Arthur en 2019 jusqu'à début 2020. Elle m'a appelé en fait pour travailler ensemble sur des mises en scène particulières avec les résidents. Et donc bon, c'est un projet tout de suite qui m'a intéressé, passionné quand elle m'en a parlé. Elle m'a parlé vraiment de son travail avec les personnes, avec aussi les éducateurs qui sont très très présents, puisque pour faire pour cheminer avec tout le monde, c'est vraiment un travail en commun et qui peut se faire qu'avec les éducateurs qui sont vraiment très très volontaires et passionnés aussi et qui ont envie qu'il y ait des choses qui se passent. Autrement, c'est très compliqué, vous imaginez bien, à faire. D'autant plus avec ce qu'on connaît encore. C'est difficile de rentrer. On a réussi là à refaire des prises de vue, en fait, dernièrement, puisque ce projet, on en reparlera peut-être tout à l'heure, mais il est à Trévarez pendant un an à partir donc de demain. Mais il y a d'autres photographies qui seront visibles à Châteauneuf-du-Fou, dans la ville, pendant l'été aussi, sur la même thématique avec d'autres prises de vue. Par contre, les photographies qui sont visibles à Trévarez ont été faites uniquement dans le parc et en jouant avec, évidemment, l'aspect naturel, comment du parc, la botanique, les espaces différents, et en jouant évidemment avec les résidents sur des mises en scène particulières.
Donc là, vous en parlez tous les deux. En plus de vous deux, il y a la comédienne, donc Séverine Valomet, qui participe au projet. Et en fait, ça a commencé avec des ateliers d'écriture qu'elle a menés pendant plus d'un an auprès donc des personnes de ce centre. Qu'est-ce qui est sorti de cet atelier d'écriture?
Alors, dans l'exposition, vous disiez finalement qu'il y a 17 portraits. En tout, il y a une vingtaine de de panneaux en fait de tirage grand format à voir, parce qu'il y a aussi du texte, donc des poèmes. On appelle effectivement cette expo plutôt des poèmes photographiques, puisque pas sur toutes les images, mais sur une grande partie des images, il y a justement ces mots qui ont été collectés sur un travail à long terme en atelier avec les résidents. Et en fait, c'est le ressenti, c'est ce qu'ils ont, c'est ce qu'ils ressentent, ce qu'ils ont sur les émotions, voilà, des choses. Donc, j'ai assisté à un atelier dernièrement, d'ailleurs, et c'est assez incroyable, en fait, en l'espace d'une heure, en fait, tout ce qui peut ressortir en poésie réelle. Donc après, c'est transformé. Bah, Séverine, c'est un travail que Séverine fait sur un travail de haïku, voilà, ou d'autres choses, d'autres formes. Et elle joue avec les mots de chacun.
Et je veux dire que, excusez-moi, pour beaucoup de ces résidents, la parole, la verbalisation n'est pas forcément évidente. Donc il y a eu cette rencontre, je crois, qui a permis aussi de faire sortir des choses. Et les éducateurs nous disaient encore, me disaient, moi en tout cas, il y a quelques jours, qu'on se rendait peut-être même pas compte de tout ce que ça avait pu apporter, de les faire, alors, je sais pas s'ils ont pu parler, si certains, beaucoup parlent, mais en tout cas, faire ressentir, dire des émotions. Et Séverine a capté tout ça finalement, et elle a marié ça, entre guillemets, avec les photos d'Éric pour la partie Trévarez, qui sont prises vraiment dans ce parc de 85 hectares, pour ceux qui connaissent pas, c'est un très grand parc, avec un château de la fin du 19e. Donc voilà, ils ont été mis en scène dans ce contexte, et on a vraiment un très très beau résultat.
Et justement là, vous parliez de faire exprimer les émotions de ces personnes-là, est-ce que vous diriez que c'était l'objectif de cette exposition ?
Alors oui, bien sûr, ça fait partie complètement de la démarche. Après, ça reste vraiment justement l'enjeu est vraiment artistique. Donc c'est avec les résidents, avec n'importe quelle personne, parce qu'on parle de résidents qui sont effectivement polytraumatisés, mais ce travail-là peut être fait avec justement tout le monde. Enfin, c'est pas spécifique, mais avec ces personnes. Et avec effectivement les problèmes qu'ils ont au quotidien, etc. C'est donner, permettre que les émotions vraiment ressortent et qu'il y ait un travail qui soit fait. Comme disaient les éducateurs, en fait, la parole revient après les séances de prise de vue, les ateliers d'écriture. C'est des fois, on a travaillé avec une personne il y a un mois, deux mois ou trois mois, et en fait, toujours, en fait, des fois le soir, au repas, reviennent des choses et des éléments voilà, qui, donc d'échange, en fait, qui permettent la communication. Donc effectivement, c'est aussi ce que ces personnes ressentent, on les ressent tous, quoi. Donc, comme dit Séverine, c'est quelque chose, de façon, qui est commun à tout le monde. Et cette poésie-là permet ça, en fait. Parce que ce sont pas des mots de souffrance, parce que il y a des personnes, oui, qui ont vécu des accidents de la vie, quoi, vraiment, quoi. Mais c'est pas ça qui ressort du tout, quoi. Et c'est quelque chose qui parle à tout le monde, dans une expression vraiment poétique.
Oui, donc une manière de montrer l'humain vraiment à des personnes.
Ouais, complètement, c'est ça.
Oui, puis ça a été une respiration aussi pour nous tous, une grande respiration culturelle pour eux, mais pour nous aussi, hein, dans le contexte. Ils sont venus, toute l'équipe est venue presque 5 journées à Trévarez au mois de septembre, à un moment où on pouvait accueillir du monde encore. Et puis voilà, il y a ce résultat. Il faut savoir que nous, on est beaucoup sur de l'exposition photographique en extérieur, habituellement, mais on est plutôt sur la belle époque, l'époque de construction du château. Là, on avait décidé de faire un pas de côté. Et je veux dire, le handicap n'est pas exposé non plus comme ça, du tout. Enfin, certaines photos, on regarde, on ne sait pas. Voilà, donc c'était quelque chose de nourri et puis de très consistant.
Et justement, en tant que directeur du domaine, qu'est-ce qui vous a attiré dans ce pas de côté, comme vous l'appelez ?
Alors, je peux me contredire. La rencontre avec ce public, je pense que la population, dans sa grande majorité, ne sait pas comment ça s'organise, ce type de centre. Moi, j'y étais déjà allé pour jouer de la musique. trouve qu'un des éducateurs, même deux éducateurs, trois éducateurs, je les connaissais, on se connaissait avec cette envie de faire quelque chose, parce que ce public-là vient déjà à Trévarès. Et voilà, à part les accueillir, leur donner accès au lieu, il n'y a jamais rien qui s'est passé. Et en plus, nous sommes aussi un domaine départemental, donc on a dans nos objectifs vocation à travailler avec ces publics empêchés ou éloignés de la culture. Donc il y avait un triple ou un quadruple challenge à relever. Et puis l'équipe de Trévarès s'est rendue disponible, évidemment, pour l'accueil lors des mises en scène photographiques. Et il y en a beaucoup qui sont ressortis de là avec aussi des émotions différentes peut-être. On est allé en partie visiter le centre. Voilà, c'est une ouverture multiple pour tout le monde sur plein de choses nouvelles, quoi. Et puis voilà, on a vocation aussi, nous, domaine départemental, à nous renouveler, à faire des choses différentes et puis à aborder plein de sujets variés.
Et je me demandais, d'après vous, qu'est-ce que ça a apporté au projet, le fait de faire des photos en extérieur dans les jardins du domaine, c'est ce que disait Eric tout à l'heure. Qu'est-ce que ça a apporté pour vous au projet ?
Le média photographique, c'est un média assez facile à utiliser pour nous en extérieur. On a ce principe là d'une vingtaine de photographies, c'est des grands formats. Tu me diras combien ils font,
c'est
à peu près là.
1 mètre par 1 mètre 50.
Voilà. Pour nous, ça a toujours été une façon d'habiter le lieu, ce qui n'est pas forcément facile. Je disais que c'était une grande superficie. Comment fait-on ? Comment fait-on pour amener des gens dans des endroits où ils vont assez peu souvent ? Là, c'est le cas avec Roue Libre, le titre de ce projet et de cette exposition. On les envoie vers la chapelle, parce que le visiteur, quand il arrive à Trévarès, il est happé par les anciennes écuries, le château, et là, voilà, on propose autre chose, et le résultat, les photos implantées, là, je trouve ça, enfin, je crois qu'on est convaincu, évidemment, mais je crois que le résultat est vraiment beau.
Et vous, Eric, qu'est-ce qui vous a plu dans ce projet ? Qu'est-ce qui vous a attirer votre œil peut-être de photographe ?
Alors, évidemment, enfin, le projet en lui-même de Roue Libre, avec comment ces personnes et puis le travail de portrait, moi, c'est mon travail en tant que photographe. Je suis plutôt portraitiste aussi. Donc, ça m'intéresse, évidemment, cette construction et ces mises en scène avec Séverine. C'est quelque chose, c'est un défi aussi, parce que je n'avais pas fait ça avant dans ce jeu, avec ce public. J'avais déjà travaillé en EHPAD ou avec d'autres, mais par contre, pas dans une mise en scène, en fait. Comme ça, c'est plutôt du reportage. Et là, c'était vraiment un défi aussi à relever. Ce qui est d'ailleurs intéressant par rapport à l'interaction avec les personnes qui travaillent à Trévarès, que ce soit les équipes, évidemment de médiation ou de communication, le directeur qui était présent pendant les prises de vue aussi et qui a aidé aussi, qui était assistant dans certaines prises de vue. Mais les jardiniers, les jardinières, par exemple, c'est un travail aussi qu'on a eu vraiment avec eux, en fait, sur des parties, des lieux où on se voyait avant, où ils me disaient, est-ce que là, tu voudrais qu'on nettoie un petit peu, là, ou pas ? Est-ce que tu as besoin de fleurs particulières ? C'est un travail vraiment en commun, et c'est du collectif, en fait, tout ça. Et en plus, je crois qu'au niveau de la médiation, parce qu'il y a des médiateurs et médiatrices, comme on parle de Trévarès, il va y avoir peut-être un jeu, en fait, qui va être de retrouver, justement, les endroits où les photos ont été prises dans le parc, puisqu'on est allé un petit peu partout, des endroits qui sont un petit peu moins connus aussi, et ça permet, dans ces portraits, d'amener effectivement un public à se dire, tiens, on va essayer de retrouver effectivement où s'est passée cette prise de vue. Donc c'est tout un jeu aussi en médiation qui va être assez important, je pense.
Et est-ce que faire cette exposition pour tous les deux, c'était un moyen de sensibiliser d'une certaine manière les gens au handicap ? Parce que c'est vrai qu'on n'est pas toujours confronté, notamment à ce type de handicap, donc tout ce qui va être lésion cérébrale, paralysie cérébrale, etc. C'était une manière pour vous de sensibiliser les gens à ce type d'handicap ?
Oui, mais c'était pas la priorité numéro une. On n'a pas fait un travail particulier là-dessus. Je veux dire, j'ai essayé de les considérer comme des gens normaux quelque part aussi, malgré toutes les difficultés qu'ils peuvent avoir à se déplacer, etc. C'est une façon de parler du handicap sans exagérer sur la question proprement dite du handicap. Je ne sais pas si tu es...
Complètement, et le titre « Roue libre », en fait, veut tout dire aussi. C'est-à-dire que c'est ça. On évidemment, oui, dans l'esprit, c'est beaucoup de personnes qui sont en fauteuil roulant. On sait très bien que dans le quotidien des gens, c'est très difficile, hein, dans les villes, un peu partout, de se déplacer aussi. Là, c'est le côté roue libre où on laisse aller à tout un imaginaire et tout autre chose, en fait. Et effectivement, que ce soit pas parler du handicap, c'est pas une exposition sur le handicap en soi, quoi. C'est comment ça va au-delà. Enfin, on l'espère. On attend d'avoir justement les retours des personnes, parce que ça, c'est évidemment très important d'avoir ce retour-là. Comment c'est perçu? Comment ça peut être perçu, justement? Et, mais là, c'est plutôt des poèmes photographiques. Moi, j'aime bien ce terme-là.
Qu'ils ont joué aux artistes, hein, quelque part aussi. C'est ce qu'on leur donne peut-être pas beaucoup l'occasion de faire, suivant les endroits, les structures, je sais pas. Là. À Carthur, je crois qu'ils sont, bien accompagnés. Donc voilà, c'est un peu eux qui, cette année, habitent le domaine de Trévarès, comme à d'autres moments, c'est d'autres scènes de vie.
Et je me demandais... En termes de photographie, de technique peut-être, comment on fait pour qu'il n'y ait pas justement un regard trop pathologisant, trop médical, trop centré sur le handicap, et que ce qui ressorte à l'image, ça soit justement des personnes et pas des personnes handicapées?
C'est une bonne question. Évidemment, c'est une question qu'on se pose en tant que photographe, hein, mais c'est une question qu'on se pose en tant que photographe tout le temps. Quand on fait du portrait, en fait. Parce que le portrait en photo, ça n'a rien à voir avec une technique particulière. Évidemment, quand on est professionnel, on met en œuvre des techniques pour un résultat. Mais en portrait, le plus important, c'est uniquement la confiance et le rapport qu'il y a avec la personne qu'on photographie. Moi, j'ai travaillé de la même manière que je travaille avec n'importe qui, n'importe quelle personne, sur cette confiance-là. Et cette confiance-là, il fallait évidemment l'avoir avec Séverine aussi, puisque dans les mises en scène, c'est des choses qui sont jouées aussi. Donc, on demandait aux personnes de jouer des personnes qui sont peut-être pas, ou qui ont envie d'être, ou qui s'imaginent aussi. Donc, ça veut dire du déguisement, malgré tout, des costumes, des choses, des accessoires. Et ça, c'est évidemment pas du tout imposé. C'est un travail en commun, où la personne dit oui, comme elle le peut, soit par l'expression, soit par un regard, soit par un geste, qui va dire « Ah non, j'ai pas envie de ça, ou j'ai envie de ça, ou ça, oui ». Et c'est tout ce rapport-là qui est très intéressant, en fait, à développer pendant ces prises de vue. Mais tout ça, c'est de la confiance, en fait, partagée. Et je sais qu'au niveau du résultat, on a montré les images avant de les diffuser, de les utiliser aussi. Et on a eu l'aval, en fait, de chaque personne sur le fait de pouvoir montrer ces photos. Ça, c'était aussi très important, évidemment, quoi.
Et ce projet, cette exposition Roue libre, elle a été soutenue par la DRAC Bretagne, mais aussi par l'ARS de Bretagne, dans le cadre du dispositif Culture Santé. Qu'est-ce que ça change dans un projet comme celui-ci?
Eh ben, tout simplement, c'est de l'argent pour pouvoir payer des artistes, faire en sorte que tout ça se passe. Et puis, par les temps qui courent, c'est un soutien précieux. Il y a aussi le département, bien sûr, qui est le principal financeur du domaine de Trévarès, mais aussi, qui a aussi financé ce projet-là via un autre dispositif, Culture Solidaire, qui justement accompagne des structures, qu'elles soient culturelles ou de santé, et des artistes pour que des projets de ce type puissent voir le jour. Et je crois que c'est vraiment une chance qu'on a dans notre région, dans notre département, d'avoir des collectivités qui nous suivent sur ce type de projet, qui sont vraiment riches de rencontres et d'émotions.
C'est intéressant, c'est l'articulation effectivement qu'il y a entre l'ARS et la DRAC, justement, depuis pas mal de temps, en fait. Hein. Il y a des croisements comme ça, où effectivement on comprend bien que ce genre de projet amenait en fait une partie culturelle et artistique dans différents domaines. Ces croisements-là sont vraiment essentiels, et ça c'est vraiment important. Il y a même aussi, en partie, une association à Carthur, en fait, des résidents, avec les familles qui ont aussi participé au projet, en fait. Donc c'est vraiment un travail collectif.
Ça permet d'ouvrir des portes, beaucoup. Ouais. Ça permet d'ouvrir les portes de ces centres pour nous, pour les artistes, et dans les deux sens, évidemment, quoi. Ça permet de faire sortir, entre guillemets, les résidents, de les ouvrir à la culture.
Et je me demandais, alors je sais que la question n'est pas évidente, mais si vous aviez chacun à choisir une photo, la photo qui vous a le plus marqué, accompagnée du texte qui vous a le plus marqué, laquelle ça serait, et est-ce que vous pourriez la décrire?
Alors oui, ça...
c'est pas évident, mais...
C'était la question piège, on nous a dit qu'il n'y en aurait pas, mais bon.
Alors, en fait, c'est vrai que bon, sur les 17 portraits, vraiment réellement, hein, par rapport à justement à la charge émotionnelle, par rapport à ce genre de prise de vue, les 17 portraits ont chacune, une histoire particulière, quoi. Après, peut-être dans la mise en œuvre et dans le, ce qui peut un petit peu synthétiser tout ce travail collectif, c'est une image donc de Michel, une femme, et qui est à qui on a demandé d'aller dans un bassin en fait de Trévarez, donc d'eau avec de l'eau 50-60 cm un peu plus. En septembre, il faisait pas non plus très très chaud. En fait, l'eau était très froide. Et en fait, moi, j'avais une idée vraiment très précise avec Séverine de ce que je voulais de cette personne, Michel, dans l'eau, en robe, avec une canne à pêche. Et au bout de la canne à pêche, il y avait une lumière, en fait, juste une ampoule allumée, comme ça. Et pour cela, pour faire ça au niveau logistique, eh bien là, les jardiniers, Jacques, d'ailleurs, le chef jardinier, c'est ça, qui a fait vraiment un passage en parpaing pour pas qu'elle soit trop dans l'eau, etc. Et rester avec elle, avec des grandes bottes à côté. Gwendal, un éducateur, est aussi allé, lui, pieds nus, il a eu très froid, pour la soutenir, pour l'aider. Et quand la photo a été prise, ils sont écartés, etc. Enfin, ils sont vraiment occupés. C'était vraiment assez... C'était très beau, quoi, en fait, ce qui se passait. J'ai fait des photos, un petit peu de ça, du dispositif, justement, et de voir un petit peu comment les personnes aussi, quel accompagnement. Parce que quand on voit les photos à la fin... On a juste une personne avec un cadre. On s'imagine pas qu'il y a, comme pour au cinéma, qu'il y a une équipe en fait à côté, hein, qui est là aussi pour que tout se passe bien et qu'on puisse le faire, quoi. Donc cette image, ça symbolise en fait l'ensemble, je pense, du travail, cette image-là, de travail collectif, vraiment.
Et Yann?
Mais non, il y a plusieurs photos qui me plaisent beaucoup. Il y en a peut-être une quand même. On a cette grande prairie en contrebas du château et il y a un chêne qui date sans doute de la construction du château, voire avant, donc un chêne qui a 150 ans peut-être, qui est tombé depuis quelques années, mais qu'on a laissé là. Et il y a un des résidents qui est pris en photo et je crois qu'il lève les bras, c'est ça, je me trompe pas. Ouais, il fait victoire. Un signe de la victoire. Et derrière, on a ce chêne et ça donne quelque chose de tout à fait original. Voilà, puis bon, il y en a plein d'autres qui m'ont séduite.
Merci beaucoup à tous les deux d'être venus.
Merci à vous.
Merci à vous.
Donc je le rappelle, c'était Yann de Boulanger, directeur du domaine de Trévarez, et Éric Legray, photographe, qui sont venus nous parler de l'exposition Roue Libre qui se passe donc dans les jardins du domaine de Trévarez, à l'exposition qui ouvre demain à 13h, c'est une exclusivité, et qui a lieu jusqu'en janvier 2022. Et tout de suite, on écoute le titre « Wait for you » de Machine Drum. FM dans l'émission C'est vous qui le dites. Et je vous laisse avec une interview réalisée ce matin dans nos studios pour parler du projet de l'association Ruches Solidaires. De plus en plus de monde se lance dans des initiatives écologiques, du petit geste du tri des déchets à la création d'espaces et d'entreprises qui y sont dédiées. Et justement, en parlant d'espace, c'est le désir de l'association Ruches Solidaires, créée par Franck Azelard, que de faire naître un espace dédié à ces thématiques à Brest. Et pour en parler avec nous, justement, Franck Azelard, bonjour.
Bonjour.
La Ruche Solidaire, c'est une association dont le but est de mettre en place des actions pour sensibiliser et agir sur la question de développement durable, d'environnement. Vous pourriez nous parler un peu plus de vos objectifs ?
Alors, le but de l'association, c'est qu'on ne défend pas directement une cause, mais on est là pour aider ceux qui en ont une à travers différents projets. Donc, on a deux projets digitaux, une marketplace bifurque qui vend des produits éco-responsables écologiques, et EcoEquity, qui est une plateforme de financement participatif pour soutenir des projets toujours liés à l'écologie et donc à l'environnement. Et de ces projets, on va distribuer les bénéfices pour soutenir d'autres associations ou d'autres projets dans ce cadre-là. Donc ça, c'est l'objectif principal de l'association à ce jour.
Et de ce que je voyais sur le site, vous intervenez sur quatre champs différents, si je peux les appeler, à la fois l'alimentation, l'écologie, mais aussi la mobilité et la consommation. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu plus sur chaque thème et peut-être nous donner un exemple d'action ou de geste que les gens peuvent faire ou alors auquel vous avez participé à avec l'association.
Oui, donc l'environnement, les catégories d'intervention sont justement l'alimentation durable, la consommation responsable, la mobilité et l'environnement. Donc le but, c'est de pouvoir aider des projets. Comment dire, ça peut être aussi bien une association qui a besoin, dans le cadre d'un ramassage de déchets sur une plage, d'avoir des moyens matériels pour pouvoir faire cette action. Ça peut être dans le cadre d'ateliers d'alimentation ou autre, d'avoir des moyens financiers pour réaliser ces actions. Donc voilà, on est là pour aider les petits gestes, les petites associations qui sont souvent le départ de plus grandes choses. On n'est pas là pour aider des associations Team Greenpeace qui n'ont pas besoin de nous et qui ont des moyens, mais plutôt des particuliers ou souvent plutôt des associations qui œuvrent dans les domaines que je vous ai cités.
Et donc là, à l'instant, vous parliez de l'exemple du ramassage de déchets sur la plage. Est-ce que, par exemple, sur le côté alimentation, sur le côté peut-être mobilité, vous avez d'autres exemples en tête sur lesquels vous avez pu contribuer ?
Pour l'instant, non. L'association est récente. Donc tout l'ensemble des projets est relativement récent. Donc on est en train de construire un petit peu l'ensemble de l'association. Et voilà, on est intervenu à travers des événements comme World Cleanup Day au 19 septembre pour organiser, comment dire, pour être un petit peu donc un certain nombre d'événements ici dans la région. On a voulu, comment dire, organiser un marché de Noël éco-responsable. Donc ça, ce sont des gestes justement pour pouvoir communiquer. Mais l'association étant courant 2020, fin 2020 et l'ensemble 2020, donc on n'a pas encore de façon concrète financièrement ou matériellement aidé des projets, même si on est en contact avec certaines associations pour ça.
Et de ce que j'ai lu dans un article Ouest France, vous avez créé la Ruche Solidaire en 2016. Qu'est-ce qui vous a poussé à créer une telle association ?
Alors, elle a été initialement créée en 2016 pour une plateforme de financement participatif pour des projets liés à l'alimentation biologique dans le sud de la France. Je n'étais pas à Brest auparavant, mais c'est dans le sud de la France. Et donc, c'est plutôt dans une démarche, pour pouvoir être utile et de faire des choses concrètes. Je suis plutôt un homme de terrain qu'un homme, je dirais, pas de la parole, ici on est à la radio, mais donc de discours, mais de faire des choses concrètes. Donc à l'origine, l'association a été créée pour cette première plateforme, et ensuite a été réactivée lors de mon arrivée à Brest en juin 2020 sur les projets qu'on vient de parler. Donc.
Et avant ça, avant de vous lancer dans cette association, vous aviez déjà participé à des actions collectives, individuelles, par rapport à la planète ?
Oui, depuis longtemps, j'ai 20 ans et pas mal d'années d'expérience, donc j'ai depuis très longtemps agi dans l'écologie, dans les années 75-80, dans la lutte anti-nucléaire, dans un certain nombre de, comment dire, d'associations. J'ai aussi un parcours dans l'humanitaire ou autre, et à l'international, donc voilà, donc j'ai toujours été sensibilisé à ça. Je suis grand-père depuis peu, donc je voudrais aussi savoir ce que je vais laisser à mes petits-enfants, à mes enfants, parce que j'ai des enfants, mais aussi des petits-enfants. Et donc, voilà, je mets mon temps disponible à faire des choses concrètes et à essayer de mobiliser les gens autour de ça.
Et justement, donc là, vous expliquez que vous êtes sensibilisé à ces causes, que ce soit à travers la question du nucléaire ou autre, depuis longtemps, mais être sensibilisé, c'est une chose, créer une association, c'en est une autre. Quel a été le déclic ?
Mais le tic, c'est d'être utile, de faire quelque chose, de mon temps. Donc voilà, c'est de pouvoir d'aider concrètement. Donc de passer de la parole à l'action, en quelque sorte, de l'intention à l'action. Comment dire, on peut avoir l'intention et une chose, mais aussi à l'action, et de développer ses projets et de réunir autour de moi les gens qui ont la même sensibilité et les mêmes objectifs, en quelque sorte.
Et est-ce que vous avez l'impression que depuis 2016, donc le moment où l'idée naît dans votre tête, et aujourd'hui, il y a une prise de conscience véritable de la population, et est-ce que c'est quelque chose que vous arrivez à voir à travers justement les actions auxquelles vous pouvez participer via l'association ?
Disons que le contexte actuel, la situation actuelle fait que, alors c'est un mal pour un bien, que la situation, comment dire, depuis un peu plus d'un an, d'une année, fait que les gens sont de plus en plus sensibles à l'environnement. Il y a un certain nombre d'événements, je dirais, nationaux ou internationaux qui font que les gens sont un peu plus sensibles, mais aussi au quotidien, c'est-à-dire la situation sanitaire, le confinement a remis a fait interroger pas mal de gens sur la façon de consommer, la façon de vivre. Beaucoup de gens s'interrogent sur changer les modes de vie, leur mode propre mode de vie, leur mode, comment dire, de consommation. Et c'est vrai qu'il y a eu un accélérateur depuis une bonne année qui, alors, malheureusement, continue dans le sens où on est tous encore dans cette situation, en espérant qu'elle pourra durer au-delà. Mais c'est vrai qu'il y a un accélérateur. Et après, c'est vrai que on a des cris d'alarme un petit peu partout qui nous font avec un compte à rebours en disant si on ne fait rien, dans quelques années, il se passera des choses beaucoup plus graves. Donc agissons maintenant.
Et justement, est-ce que vous avez l'impression que est-ce que vous croyez dans le fait que même après cette vague de crise sanitaire, etc., les gens continueront à être dans cette démarche écologique, en faisant attention à ce qu'ils mangent, à leurs déchets, etc.
Malheureusement, le français a souvent la mémoire courte et le naturel revient au galop. Donc c'est à nous, justement, de façon concrète, et les projets que les associations portent sont des choses concrètes, c'est-à-dire d'aller vers les gens qui ne sont pas aujourd'hui convaincus ou qui ne sont pas sensibilisés à la cause, c'est-à-dire de pouvoir aller vers eux par des gestes, voilà, pour dire, au lieu d'acheter tel produit, acheter tel produit, et dans leur consommation au quotidien, comment dire, ils peuvent agir sur la planète. Comment dire, c'est pas seulement de faire des pétitions ou des manifestations ou autre, chacun, individuellement, peut participer. Voilà, on parle de la réduction du plastique, la réduction, comment dire, de la consommation de viande, alimentaire ou autre, d'autres modes d'alimentation. Donc chacun peut, à son niveau, contribuer au quotidien, comment dire, à ce que les choses s'améliorent. Donc et nous, associations, structures ou autres, c'est à nous à continuer à diffuser et à apporter des solutions, en quelque sorte, à poser des solutions.
Et justement, en tant qu'association, vous avez ce projet de monter un espace à Brest qui s'appellerait Imagine, donc un projet que vous comptez monter dans les mois à venir. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit exactement ?
On est parti, voilà, donc de ce constat. On est parti dans l'un de nos projets, nous avons Bifure, qui est une marketplace de vente de produits co-responsables. Donc, on voulait retranscrire ça pour traverser un petit peu les écrans, pour voir de façon concrète comment on pourrait, quelle offre on pourrait proposer, comment dire, aux consommateurs, aux citoyens, en quelque sorte. Donc, on s'est mis virtuellement autour d'une table, parce qu'on se réunit à distance au jour d'aujourd'hui, mais on a lancé l'idée, et l'idée est venue de ce projet. Et quoi de plus significatif qu'une maison pour représenter les gestes du quotidien, où on a tous un domicile, un appartement, une maison ou autre, et donc c'est de pouvoir, à travers chaque pièce, retranscrire ce que les gens peuvent faire. Qu'est-ce que je peux faire dans mon salon, ou qu'est-ce qui peut se passer dans un salon, qu'est-ce qui peut se passer dans une cuisine, qu'est-ce qui peut se passer dans la chambre ou autre. Donc on a imaginé, d'où le nom pour l'instant donc, du projet, le projet Imagine, donc on a imaginé la création d'un espace qui serait une maison, où on pourrait apporter, comment dire, comment, notre slogan c'est bifurque maintenant, comment bifurquer dans nos moyens, dans nos modes de consommation au quotidien. Voilà. Et sur un modèle économique qui se rapproche de ce que les gens connaissent, c'est-à-dire la grande distribution, le commerce traditionnel, donc d'avoir une offre qui s'apparente à ce qui existe, mais avec à l'intérieur, dans le salon, des espaces d'animation, de rencontres, des ateliers, voilà, donc à la fois sur le côté animation et aussi le côté vente de produits, les produits qui remplaceront les produits du quotidien qui sont aujourd'hui, comment dire, polluants ou non conformes.
Justement, en parlant de cette maison, donc c'est la forme qu'aurait cet espace, donc avec différentes pièces, vous en parliez à l'instant, avec la salle de bain, avec des produits DIY pour apprendre à faire ses propres produits, son propre savon, son propre dentifrice, etc. L'exemple de la chambre avec des vêtements de seconde main, etc. Représenter les différentes pièces d'une maison, c'est un moyen de montrer que l'attention qu'on accorde à la protection de la planète, elle peut passer par plein de choses différentes et que, malgré ce qu'on entend, il y a d'autres choses que juste arrêter la viande ou que juste arrêter d'acheter en fast fashion.
Oui, voilà. C'est-à-dire quand on creuse les choses, on s'aperçoit que tous les petits gestes du quotidien, à tous les niveaux, comment dire, dans une maison, dans la décoration, dans l'ameublement, comment dire, il y a tout ce qui est, il y a des ressourceries, il y a des recycleries, donc l'ameublement, dans la façon, donc dans l'alimentation, il y a pas que le zéro plastique, comment dire, le zéro déchet, il y a plein d'autres choses, c'est où on peut intervenir. Et dans cette maison, dans la maison, il y a aussi le garage, où dans le garage on met le vélo, et c'est le vélo et comment dire le moyen de mobilité plutôt que de la voiture. Voilà, donc voilà, c'est un peu le comment on voit les choses.
Et toujours pour continuer avec cette maison, il y a notamment la pièce du salon qui serait un espace de rencontre avec vous en parliez tout à l'heure, des animations, etc. Est-ce que ça serait la place pour des ateliers de sensibilisation, par exemple, avec des plus jeunes?
Oui, justement, le salon, c'est le lieu de rencontre. qui va permettre aux gens de se rencontrer, de sensibiliser les gens, sensibiliser à travers les écoles, à travers d'autres associations qui peuvent, de façon ponctuelle ou temporaire, apporter, comment dire, un message ou une animation. Donc voilà, donc quand on parle du salon, c'est le lieu de rencontre avec ce coin bibliothèque, librairie qui va permettre, comment dire, de trouver les livres en rapport avec tous ces sujets-là. Mais le salon, c'est d'abord le lieu de réunion et de rencontre, d'exposition, d'animation. Voilà.
Et en termes de public, parce que là, dans le salon, on parlait à l'instant des écoles et de ce public-là en particulier, mais quel est votre public ? Est-ce qu'il est plus large que...
Le public, c'est tout le monde. Le public, c'est tout le monde. Donc, comment dire, on veut justement que les choses soient configurées de façon à pouvoir accueillir le simple citoyen qui va rentrer pour dire, tiens, j'ai un cadeau à acheter, mais plutôt que d'acheter un cadeau bête, je ne vais pas citer des marques de produits plastiques made in China, mais plutôt que d'acheter, va trouver un cadeau original fait par un créateur au niveau local, ou va trouver un produit lié à l'hygiène de la santé qui soit, comment dire, qui corresponde à un certain nombre de critères d'une cahier des charges. Donc voilà, ça va être personne lambda et qui peut-être, en passant la porte, va découvrir autre chose. Donc il va découvrir justement qu'il y a un lieu où il peut s'informer, s'instruire, rencontrer d'autres gens. Donc voilà, donc la démarche peut venir du citoyen des deux côtés, soit par l'animation, soit par le côté commercial. C'est pas péjoratif, hein. Donc si on veut distribuer des bénéfices pour soutenir des projets, qui dit bénéfice dit d'abord chiffre d'affaires. Donc voilà comment on voit les choses.
Et justement, pour continuer sur le côté commercial, donc il y a le salon avec les espaces de rencontre, mais donc il y a aussi des espaces où il y aura de la vente avec des produits. Ces produits, quels sont-ils et comment vous les choisissez ?
Alors, les produits, quels sont-ils ? Alors, le plus large, le spectre le plus large possible. Comme je vous disais, on développe une marketplace. Il y a aujourd'hui 180 marques et 2600 produits. Donc, on va d'abord aller. Donc, ces marques, ce sont des marques partenaires avec qui on travaille, avec qui ils sont référencés parce que ils répondent à un certain nombre de critères en matière de gérance, de contenu et les marques. Donc, ça va d'abord. On va d'abord aller sourcer, en quelque sorte, les produits dans ces partenaires qu'on a. Donc voilà. Donc ça, c'est au niveau national, parce que national. Et puis après, on verra s'il y a des solutions aussi locales, surtout au niveau de l'alimentation, de pouvoir, comment dire, apporter au niveau de l'alimentation des produits locaux en circuit court.
Oui, c'était ma question d'après. Vous avez déjà envisagé, enfin, parce que là, si on parle de Brest, est-ce que vous avez déjà commencé à parler avec des fermes, avec des lieux de production locaux, biologiques
pas encore, mais on les connaît. Ils sont identifiés, donc le moment venu, et ça va aussi dépendre de l'espace dont on aura besoin. Si l'espace final a un extérieur, ça sera aussi l'objet d'un marché ponctuel ou régulier pour réunir. Il y en a déjà quelques-uns à Brest, mais ça sera un lieu supplémentaire pour pouvoir justement faire intervenir tout ce qui est producteur, ferme au niveau de la région.
Et justement, en parlant d'espace, pour l'instant, vous êtes à la recherche d'un local, d'un lieu où créer cet endroit, cette maison. Est-ce que vous avez déjà des pistes, des idées ?
On a quelques pistes. Mais le projet démarre, le projet final est ambitieux, relativement grand, donc on veut y aller étape par étape. On souhaite créer une phase intermédiaire, c'est-à-dire une boutique éphémère sur un temps donné, sur une surface beaucoup plus réduite que le projet final, mais qui va permettre à la fois de nous faire connaître, de tester ce projet. Voilà. Et ensuite, l'idéal, évidemment, on a évoqué 500 mètres carrés, c'est un certain coût, c'est réalisable, si c'est tout à fait réalisable. Et on a des pistes, on a déjà été contacté par des locaux, par des propriétaires locaux de ce type de locaux.
Donc là, vous parlez d'un projet un peu intermédiaire, plus petit. Tout à l'heure, vous le disiez hors antenne, pour ce projet-là intermédiaire, vous envisagez de trouver des stagiaires ou des personnes bénévoles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ?
Oui, donc ce projet... Alors, L'association, tout ça, aujourd'hui, ça reporte sur du bénévolat, dans un premier temps. Donc il y a, sur Brest, 4 bénévoles qui sont sur ce projet-là. L'association La Ruche Solidaire a une quinzaine de bénévoles qui travaillent sur les autres, qui interviennent sur les autres projets. On est à la recherche de bénévoles pour continuer à avancer sur ce projet-là. On est en période de fin d'année, de stage, et donc on souhaite... sur cette boutique éphémère, éventuellement, s'il y a des étudiants qui sont intéressés dans le cadre d'un stage de fin d'année ou autre, on a déjà une étudiante en communication qui nous rejoint à partir du mois d'avril, mais s'il y a des étudiants en termes d'école de commerce, d'architecture ou autre qui veulent participer au projet, ils sont les bienvenus.
Bon, on espère que le message est entendu. Et enfin, j'ai cru comprendre que vous aviez comme projet de reproduire un tel espace ailleurs en France. Comment vous comptez vous y prendre ?
Oui, alors on a lancé un peu l'idée et beaucoup de gens nous observent et nous regardent et rebondissent là-dessus. Donc il est vrai qu'on souhaite, à l'image un petit peu d'un autre partenaire avec qui on travaille, qui est Artisan du Monde, qui a développé son réseau à travers une centaine de boutiques en France et qui œuvre, eux, dans le cadre de l'aide à l'international. Donc c'est à terme de pouvoir voir si on peut multiplier ces lieux sur d'autres endroits, peut-être sur des surfaces différentes, 50, 100 mètres carrés ou autre. Et donc, on a été interpellé par un certain nombre de personnes qui sont, dont le projet intéresse et qui sont partants pour ça. Donc, ce matin, j'étais en contact avec des bénévoles dans le nord de la France à Arras. Il y a des pistes sur Lorient, il y a des pistes sur Angers, sur Toulouse. Et donc, l'idée, c'est de voir d'abord réfléchir ensemble et puis ensuite voir comment on peut multiplier ce projet.
Oui, donc un projet qui, on l'espère, réussira à aller à son terme au plus vite possible malgré la crise sanitaire. Merci beaucoup, Franck.
Merci à vous.
C'était donc Franck Azella, créateur de l'association en faveur de la protection environnementale La Ruche Solidaire, venu nous présenter le projet en construction Imagine, qui consiste en un lieu dédié aux thématiques de l'écologie à Brest. êtes sur Radio U dans l'émission C'est vous qui le dites. Et c'était le titre You Had It All de Gloria. On continue avec la chronique radiophonique Le Littoral Autrement, qui se concentre sur la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc, réalisée par Raphaël en service civique à Radioactive. Cédric Jamet, garde technicien de la réserve, va nous expliquer en quoi consiste son métier de policier de l'environnement et en quoi il est essentiel, avec le reste de l'équipe, à une préservation optimale du milieu naturel.
Le littoral autrement. Une série de reportages consacrés aux nouvelles activités maritimes en Bretagne.
Je m'appelle Cédric Jamet et je suis le garde technicien de la réserve naturelle de la baie de Saint-Brieuc. Ce poste consiste à assurer donc les missions de surveillance, police, sur le territoire de la réserve naturelle. C'est tout simplement donc faire appliquer la réglementation sur le site. J'assure aussi tous les travaux de gestion, tout ce qui est mis en place pour protéger les milieux naturels ou les différentes espèces. Et j'ai aussi une grande mission de sensibilisation, animation, façon à mieux informer donc le public qui vient se promener sur le site de la réserve naturelle, les sensibiliser aux thématiques environnementales. Et nous animons donc depuis quelques années un groupe de bénévoles qui est constitué donc de 150 personnes que nous mobilisons à des fins de gestion, d'entretien du site, lutte contre des espèces invasives, mais aussi de sensibilisation du public sur le territoire de la réserve naturelle. Dans le cadre de notre grande mission de protection de la baie de Saint-Brieuc, moi et mon collègue, nous nous sommes assermentés et commissionnés, rattachés directement auprès du tribunal de Saint-Brieuc, notamment auprès du procureur de la République, qui nous missionne pour constater les infractions relatives à l'environnement qui, cumulées, peuvent impacter fortement sur le territoire de la réserve naturelle. Ici, comme nous avons des enjeux importants donc d'accueil d'oiseaux migrateurs, la réglementation est quand même tournée vers des règles plus dures, plus strictes hein, pour le public. Régulièrement, tous les ans, on a 500, 600 infractions que nous constatons sur le terrain. Donc nous, notre travail, c'est de concilier la fréquentation du public et la protection de l'environnement. On protège mieux ce que l'on connaît. Donc, à partir de cette base d'acquisition de connaissances, derrière, on peut mettre en place des phases de travaux pour mieux gérer donc cet espace et surtout le protéger du public, de la surfréquentation. Ceci peut passer par la mise en place de clôtures, de ganivelles, hein, ces petites lattes de bois pour soutenir et protéger les dunes, mais aussi qui empêchent les personnes donc d'aller vers des sites très sensibles tels que les mares ou les hautes dunes, des secteurs notamment qui ne supportent pas le piétinement. Donc là, on peut mettre un système d'aménagement un peu plus costaud tel que sont les ganivelles. Donc depuis 2013, ce groupe est de plus en plus consolidé par de plus en plus de personnes et nous organisons 6 à 7 nettoyages par an avec une moyenne de 40 personnes qui viennent à chaque nettoyage. Ces actions consistent donc à nettoyer les plages de manière manuelle, en totale protection de l'environnement car on n'utilise pas donc de véhicules. Un nettoyage qui est long, minutieux, fait à la main, qui permet donc de ramasser le nombre de déchets qui viennent soit de la mer ou par les rivières ou par le vent, hein, qui n'ont aucune origine naturelle bien sûr. C'est essentiellement du plastique, hein, mais aussi des déchets liés aux activités maritimes. Et grâce à ces efforts donc collectifs, cela permet donc de récolter entre 1 et 2 tonnes de déchets par an sur les différentes plages de la réserve naturelle. Ce travail donc de bénévoles autour des actions nettoyage de plage a permis donc à la réserve naturelle d'être un acteur aussi important sur le plan national et international, car depuis donc ces actions de bénévoles depuis 2013, ces données vont ensuite alimenter la base de données nationale au niveau du CEDRE à Brest, qui est une branche du ministère de l'Environnement, qui permet ensuite d'orienter des politiques publiques en termes de réduction des déchets sur le plan national et aussi international. Tout ceci est le fruit donc des acteurs bénévoles depuis 2013. Il faut pas oublier non plus que lorsque les activités humaines peuvent être compatibles à la protection de l'environnement sur ces sites-là, alors elles peuvent exister. La réserve naturelle donc est accessible à 90% de son territoire. Et la réglementation a pris en compte de nombreuses activités humaines déjà existantes. Et en baie de Saint-Brieuc, donc on a aussi un gros travail que nous menons régulièrement tous les ans avec les différents organisateurs d'épreuves sportives, manifestations touristiques ou culturelles. Ces organisateurs donc, ont bien compris également le fait que ça peut attirer du monde, jusqu'à 1000 personnes, 1000 sportifs. Nous avons aussi des randonnées pédestres, équestres. Donc ces choses-là sont possibles dans la limite de la réglementation, dans le respect de l'environnement. Ces manifestations peuvent être aussi donc une cible pour parler protection environnement, sensibilisation, expliquer aux gens ce que nous faisons comme travail, pourquoi c'est interdit, pourquoi c'est autorisé. Donc c'est aussi un vecteur de communication. Nous, notre esprit, c'est de sensibiliser un maximum de personnes. Si ces choses-là donc, peuvent être faites sur le territoire de la réserve sans que ça dérange l'environnement, donc pourquoi pas. La réserve, c'est pas non plus qu'un sanctuaire de protection environnement, c'est aussi un lieu de vie.
Ce reportage a été réalisé par la Corlab avec le soutien de la DREAL et de la région Bretagne. Retrouvez-le en podcast sur corlab.org.
C'est vous qui le dites, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur le site de Radio U. Et je vous souhaite une très bonne soirée sur le 101.1 FM.